repérage du bibliothécaire.
Bonjour Benigno.
Bonjour Marc, comment ça va? C'est début de printemps, on est vraiment au printemps là.
Ah bah ouais, un peu comme il faut. Après même une semaine de vacances, j'ai voulu aller voir dans le sud si c'était mieux. Mm-hmm. Finalement, il y avait aussi du mistral, ici il y a de la bise.
Oui.
Mais il fait beau, c'est bien.
C'est ça, on peut se chauffer au soleil comme des bons lézards.
Exactement.
Ouais. Et puis en parlant des arts, ça n'a rien à voir, mais on peut parler des livres un peu qui ont été enregistrés dans la... Qu'est-ce que tu en penses?
Ah bon, parce qu'il y a des gens qui enregistraient des livres.
Mais oui,
ah
oui, 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 oui.
Ils ont eu une bonne idée, d'ailleurs.
Malgré le soleil, malgré l'envie de rester au soleil, il y a des lecteurs de vous, oui. Absolument.
Ils sont bien gentils.
Ah oui, ah oui.
Puis alors, qu'est-ce qu'ils ont lu de beau?
Oui, ils ont lu énormément de choses intéressantes et variées, comme toujours, dans notre liste de ces mois. Et c'est une liste assez fournie, il y a un peu pour tous les goûts, pour tous les genres, mais je vais parler en particulier des trois livres qui sont chacun particulier, chacun à sa manière, et chacun se situe aussi un petit peu à la lisière d'un certain nombre de genres, mais il faut quand même les mettre dans son genre, évidemment, pour qu'on puisse les trouver. Donc, je vais commencer par un livre qui est un peu spécial parce que ça parle... en tout cas, l'un des personnages du livre, c'est un personnage qui est un auteur lui-même. Et si je n'étais pas de Stieg Larsson, ça te dit quelque chose?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors voilà, donc c'est l'auteur des Millennium. Mais il se trouve que cet écrivain, qui était aussi un journaliste, un enquêteur des premiers niveaux, a consacré une grande partie de sa vie, enfin en tout cas des journalistes, je veux dire, à résoudre un des grands traumatismes qui est devenu une énigme, bien sûr, mais un traumatisme politique en Suède, hein, Suède, un pays tranquille et calme, et en 1986, Olof Palme, premier ministre, allait au cinéma, et, tranquillement, peut-être qu'il pensait même manger une glace après, et puis il a été tué. Ça c'était un grand traumatisme en Suède. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Stieg Larsson a voulu savoir ce qui s'est passé, pourquoi, qui l'avait tué vraiment, parce que ça reste encore un mystère à demi en tout cas. Alors il a fait des longues enquêtes, il a réuni une énorme masse de documentation, il s'est documenté dans tous les mouvements, toutes les sources, y compris les mouvements d'extrême droite européens, tout ce qui pouvait être derrière l'assassinat de Olof Palme, et donc c'est passionnant. Et puis l'auteur du livre en question, Jean Stocklasa, qui est aussi un Suédois bien entendu, il reconstruit, parce qu'il a eu accès à toute la documentation de Stieg Larsson sur l'assassinat de Olof Palme. Donc, il reconstruit et l'enquête et le travail lui-même de Stieg Larsson. Et donc, ça se lit, même si c'est un documentaire en soi, ça se lit presque comme un policier, mais ça reste quand même un documentaire. Donc, ça s'appelle « La folle enquête de Stieg Larsson » et il est disponible avec le numéro 65003.
D'ailleurs, à propos de ces numérotations, 65 000, comment ça se fait?
Ah, c'est une question philosophique, tu poses.
Oui, écoute,
c'est un aspect purement d'exploitation, de fonctionnement, parce que tu sais que nous, on travaille avec les livres qui sont livres noirs, les livres finis. Mm-hmm. Et donc, il se trouve qu'il y avait dans une tranche de livres noirs anciens qui n'étaient pas encore finis. Donc, pour ne pas bousculer absolument toute la collection, on a laissé cette tranche-là et puis on est réparti aux 505 000.
Donc on n'a pas 60 000 livres à la BSR, rassure-moi.
Non, on n'a pas 60 000 livres à la BSR. Mais on les aura, on les aura.
D'accord.
Un jour, on les aura.
Et puis autre petite remarque par rapport à Stieg Larsson et Olof Palme. Il me semble que dans Millennium, il a fait plusieurs fois allusion à cet assassinat d'Olof Palme.
Bien sûr, ouais, je crois que c'était une de ses obsessions vraiment de Stieg Larsson. D'ailleurs, Stieg Larsson lui-même, on se pose des questions sur sa mort aussi.
Mm-hmm. D'accord.
Mais ça c'est vrai. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Ah, ça marquait la Suède, ça, oui, oui. Oui, donc, Alors, on passe à au deuxième.
Ouais, bien sûr, oui.
Alors, bon, là, en l'occurrence, ouais, on reste en Europe, mais on va aller un petit peu à l'Europe en tant que telle, donc à Bruxelles. Et c'est un livre aussi particulier parce que c'est à la fois un roman social, un roman satirique, en quelque sorte, et aussi un roman historique, d'une certaine manière. Et en fait, il a été écrit par un écrivain autrichien qui s'appelle Robert Menas, qui est philosophe de formation à la base d'ailleurs. Et alors le livre, il commence de manière complètement absurde et cocasse. Il y a un cochon qui commence à courir dans les rues de Bruxelles. Ça crée les petits. Là, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais en même temps, il y a un meurtre. Il y a un détective qui va essayer de résoudre ce meurtre, mais on le met des bâtons dans les roues. Et en même temps, il y a toute une série de personnages qui travaillent à la Commission européenne, et on va voir un petit peu d'un côté la vie de ces personnages, on va voir le fonctionnement de la Commission européenne de manière complètement cocasse et puis, parfois, de l'ironie, du sarcasme, c'est assez bien fait. Et en même temps, il y a un personnage qui s'appelle Debrient, qui est un survivant, un juif survivant, une vieille personne, qui est atteint d'Alzheimer, qui essaie de garder la mémoire. Et donc, si tu veux, le livre, en même temps, il y a un côté des paraboles sur la perte de la mémoire, que ce soit personnelle ou historique, sur le fonctionnement d'une Europe qui essaie de garder une unité, mais qui part en vrille par toutes les tracasseries bureaucratiques et puis les égos personnels de chacun, et en même temps, un monde qui est difficile à appréhender, tous les mondes du commerce international et avec l'Europe, le monde des petits gens aussi. Il y a des scènes assez cocasses aussi au niveau individuel. Donc c'est un livre qui est aussi un petit peu inclassable, mais qui nous fait sourire, qui nous apprend plein de choses sur l'Europe et aussi plein de choses aussi sur la vie européenne. Il faut dire que Menas est autrichien, bien sûr, et un des leitmotifs du livre fait référence souvent, et d'ailleurs c'est le livre préféré d'un des personnages, d'un des chefs d'une des branches de la Commission européenne, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil, donc qui est un classique de la littérature universelle et puis autrichienne. Et donc il y a un lien entre les deux, il y a des clins d'œil. C'est un livre qui est assez, en même temps, agréable, facile à lire, mais avec une grande densité, je dirais. Ça s'appelle La Capitale, bien sûr, qui est Bruxelles. Et les numéros, c'est les 65 000. Tu vois, on continue avec ces 65 021. Ça, c'est pour le deuxième livre. Et puis, le troisième livre dont je voulais parler, j'avais évoqué brièvement précédemment. Et c'est aussi un livre qui est inclassable, vraiment inclassable, parce que...
Décidément, c'est le jour.
Oui, mais c'est ça. Mais parfois, c'est bien. Et comme disait un écrivain de mon pays... Parfois, définir, c'est transformer en cendre. Donc, mais bon, il faut quand même mettre les livres. Et c'est pourquoi, justement, ce livre dont je vais parler, il est mis presque à contre-cœur dans les domaines du polar et du noir, etc., bien que ce soit pas un polar en soi, parce que tu vas voir pourquoi. C'est un livre qui se situe à la lisière, ou plutôt au croisement des chemins une enquête, bien sûr, là on continue avec les enquêtes policières, mais une enquête aussi psychologique, humaine, pour comprendre un personnage. Mais il y a aussi un pan qui est du domaine de l'introspection, de l'autobiographie. Le livre a été écrit par une Américaine, une jeune Américaine qui s'appelle Alexandria Marsan-Lenovitz, et puis qui, en fait, à un moment donné, décide de faire des études de droit. C'est une fille qui, de part, ses parents sont avocats aussi. Elle est farouchement opposée à la peine de mort. Et un jour, on l'envoie toute jeunette au sud, dans un cabinet du sud des États-Unis. Il y a la moiteur du sud, etc., les plantes. Et elle va travailler sur un cas, on va la mettre sur un cas, d'un gaillard qui s'appelle Rick Langley, qui est un peu le pire qu'on peut trouver. Et un assassin pédophile.
D'accord.
Donc, et du coup, ses convictions de que la peine de mort, non, ça peut pas être appliqué, comment ça va s'y un petit peu? Elle c'est pas un peu dans le sens inverse. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe chez elle. Parce que ce personnage de Ricky Langley est un personnage complètement trouble, troublant et trouble en même temps, qui a eu lui-même, on découvre petit à petit qu'il lui-même, elle a essayé, en tout cas au début, de lutter contre ses propulsions, mais qu'il n'a pas pu, on n'a pas fait attention. Et c'est assez bizarre, il a eu une vie assez, même déjà la naissance, c'était pas banal, si j'ose dire. Et elle-même, ça va la toucher de manière beaucoup plus profonde qu'elle pouvait penser. Et en fait, elle va découvrir que ça a des résonances dans sa propre vie personnelle, parce qu'elle-même, elle a subi un certain nombre de choses dont on va avoir connaissance, bien sûr, si on lit les livres. Je ne vais pas vous parler à la place de l'auteur, bien entendu, mais c'est assez touchant parce qu'elle arrive. Ça aurait pu être racoleur, ça aurait pu être vulgaire, ça aurait pu être machin. Et ça donne une telle force que vraiment c'est un livre qui est on l'oublie pas facilement après l'avoir lu. Pour les petites histoires, Rick Langley, qui a été défendu par un célèbre avocat anti-peine de mort dont Alexandria Marcel Ledvovitch était stagiaire justement, et il a réussi il a pas été condamné à mort, il a été condamné à perpétuité, et après même sa peine a été légèrement diminuée, alors que on sait très bien qu'il est incurable. Et pour la petite histoire, j'ai fait des recherches. Il est possible qu'il puisse sortir l'année prochaine.
D'accord.
Si jamais pour... voilà. Essayer de parler avec des enfants aux États-Unis, c'est assez effrayant. Mais l'histoire elle-même, c'est au-delà de ça, au-delà des aspects scabreux, horribles, purement horribles qu'il y a, c'est du point de vue humain, du point de vue psychologique, comment est-ce qu'on essaye lui-même, enfin, soi-même, dans le cas de l'auteur, de Alexandria Marzano-Leslovitch, de se reconstruire après quelque chose qui était arrivé, comment tout est reconstruit, et comment tout est reconstruit aussi en écrivant. Et la valeur presque thérapeutique de l'écriture. Donc, c'est un grand livre. Et puis, il est disponible avec le numéro 39 000. Là, pour les cas, c'était avant, c'est sauvé les 60 000. Mmh. Et 39 697.
Et en production, qu'avons-nous ?
Alors, en production et en lecture, évidemment, comme toujours, aussi des bonnes surprises pour nos auditeurs et nos auditrices. Mais j'en parlais juste des trois. Là, on va rester plutôt dans les domaines de suspense pour leur roman noir et polar. Et il y a un livre qui est déjà lu, donc qui est en prod, qui sera disponible très bientôt. Mais bien sûr, on en parlera dans les prochains numéros, puisqu'il va sortir probablement la semaine prochaine. C'est le dernier Bussy. C'est que Bussy a beaucoup de fans chez nos auditrices et nos auditeurs. Donc c'est le tout dernier qui vient de sortir presque, et qui s'appelle J'ai dû rêver trop fort. Et il y a un personnage qui s'appelle Nathalie, qui est hôtesse de l'air, et il y a toute une série de sa vie, des événements qu'elle avait vécu 20 ans plus tôt, comment ça se répète. Et bref, je vais pas tout raconter. Le livre sera disponible très bientôt, des Bussy, J'ai dû rêver trop fort. Donc, sachez qu'il est presque disponible, mais pas encore pour cette liste.
C'est lui qui a écrit Le vol sans aile.
Ouais, il a écrit tellement de choses, Bussy. Ouais. Et chaque fois, c'est des best-sellers, etc.
Ouais.
En parlant des best-sellers, justement, il y a un autre qui est en lecture, celui-là, mais qui sera disponible aussi, pour le prochain numéro, qui est Michael Connelly. Michael Connelly aussi, c'est une grande pointure du polar. En l'occurrence, et Michael Connelly, il lance une nouvelle série, parce qu'à un moment, il y avait un inspecteur. Et bien non, et son protagoniste, c'est plutôt sa protagoniste, puisque c'est une héroïne, c'est une inspectrice, mais qui s'appelle René avec E, deux E, René Ballard. Et donc, et une femme à caractère bien trempé, qui se lance dans des enquêtes que normalement elle aurait dû faire, elle aurait dû pas faire. Donc voilà, les derniers Michael Connelly, en attendant le jour, qui sera disponible bientôt parce qu'il est en lecture. Et en lecture aussi, est disponible dans relativement peu de temps, mais c'est un gros livre. Et notre ami Foltenhauer, qu'on connaît bien par Les Dragons du Muvéran et par l'autre livre Heidi, qui se déroule dans notre cher Suisse. Et là, en l'occurrence, une partie du livre va partir un petit peu vers les contrées un peu plus au nord. Et la Suède, on sait que Foltenhauer lui-même, il est à moitié suédois d'origine, par sa mère, je crois. Bon, le livre se déroule une partie en Suède, et puis s'appelle L'Aigle de Sang. Alors, on en parlera quand il sera disponible, juste pour annoncer que pour les amateurs et les fans de Foltenhauer,
il faut être attentif.
Voilà.
Okay. Et sur ta table?
Ah, sur ma table, il y a toujours des choses de tout genre, de tout type. Je vais parler d'un livre qui, pour le coup, n'est pas un polar et n'est pas une fiction. C'est un... Non. Là, en l'occurrence, c'est un livre, c'est une réflexion, un essai à caractère aussi un peu autobiographique, mais aussi un essai, en fait, sur le monde. Il y en a tellement qui se font maintenant, et tout le monde pense à la fin, etc. Mais lui, je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a une certaine bienveillance, même quand il parle de la fin du monde, on aurait envie de l'écouter pendant des heures, et du coup, la fin du monde se prolonge un petit peu, heureusement, il s'agit de, parce qu'il y en a qui sont vraiment traumatisants, mais lui, c'est Amin Maalouf. Alors, Amin Maalouf, c'est un personnage qui est assez touchant. Lui, il est libanais d'origine, il est né dans une famille chrétienne du Liban, qui s'est exilé en Égypte, qui est retourné au Liban, quand Nasser les a chassés, comme il a chassé tous les étrangers, les gens qui l'embêtaient. Et puis, au Liban, évidemment, au moment de la guerre du Liban, enfin au niveau de l'une de ces catastrophes qui a traversé ce pauvre Liban, il est parti en France, donc il est considéré comme un auteur franco-libanais. Il écrit en français et il a d'ailleurs gagné même les prix Goncourt en 1993 par un bouquin qui s'appelle Les Rochers de Tanios, qui est disponible chez nous. Et bref, il était aussi journaliste. Il a été journaliste, son père était journaliste aussi, et il a couvert des événements. Il se trouve qu'il a réussi à se trouver là où ça bardait. Et il a été au Vietnam, au moment de la guerre du Vietnam. Il a été à Téhéran, presque en face, assis en face d'Ayatollah Khomeini au moment où il a déclaré la République islamique. Donc c'est un gars qui est vraiment au sein des événements, qui sait de quoi il parle, et en fait, ce livre, il va nous parler de sa vie, de ce monde, et de cette région du monde qui n'existait plus en tant que telle, enfin, qui ne s'appelle plus comme ça, qui est le Levant, et on parlait de Levantin, de Levantin, ce monde qui est tout cette bassin du sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient, mais qui pourrait aller jusqu'à Grèce aussi, et une culture, une manière d'être, et dans laquelle il y avait ces notions de cet Orient-là, qui était un Orient cosmopolite, qui avait des échanges. Même si j'ai pas vécu ça, je suis nostalgique de voir comment des choses qui à l'époque, des communautés qui interagissaient de manière conviviale, et chacun avait et pas partagé avec l'autre. On pouvait voyager dans des endroits où on ne serait même plus maintenant se promener à la pointe des pieds. Alors qu'à l'époque, plein de choses comme ça étaient possibles. L'Égypte, c'est un foisonnement culturel immense, et le Liban, bien entendu.
Et donc, la Syrie aussi.
Oui, bien sûr. Et tout ça a disparu. Donc, il parle de ça et il parle surtout des causes. Comment, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Et lui, il a une vision très originale, une vision qui est mesurée, mais en même temps sans concession, de tous ceux qui sont, d'une certaine manière, bien que ce soit un concours de circonstances, coupables, responsables, de que les choses se soient dégradées comme ça. Et les livres se lient déjà, parce que c'est bien écrit, se lient agréablement, se lient avec plaisir, et puis on apprend plein de choses. Et même si c'est pas forcément optimiste, bien entendu, et comme il écrit, à différence d'autres qui sont vraiment acides, amers, sombres, c'est lié avec une certaine douceur. Donc c'est assez étonnant parce que c'est un livre qui n'est pas joyeux, mais qui se lit avec plaisir. Donc c'est Amin Maalouf, Les naufrages des civilisations, et j'espère qu'il trouvera preneur ou preneuse très tôt.
Ah, avis aux amateurs. Ouais. Et puis dans le monde littéraire, ce printemps, il se passe beaucoup de choses apparemment. Quel est ton sentiment?
Non, écoute, bon, il y a toujours des sorties, il y a des prix littéraires, il y a des maisons d'édition qui sont rachetées par d'autres, mais ce n'est pas le phénomène des rentrées, etc. Bon, des prix littéraires, il y a toujours, parce que, évidemment, que plus tu fais des prix, plus tu parles des livres, plus tu vends des livres, mais ce n'est pas une grosse rentrée. Il y a une ou deux choses intéressantes. à deux niveaux. Il y a des auteurs nouveaux dont je parlerai dans le prochain numéro. Et puis il y a aussi quelque chose de très intéressant qui fait une des maisons d'édition, justement, je te parlais, qui est Noir sur Blanc, qui essaye de refaire revivre des grands classiques de la littérature, notamment des pays de l'Est, qui étaient méconnus, oubliés, ou en tout cas mal connus. Et que c'est un joli travail qu'ils font, et puis on découvre des livres vraiment extraordinaires. Mais j'en parlerai au prochain numéro, je préparerai quelque chose là-dessus.
Mmh. D'accord, alors on attend.
Avec plaisir.
Alors merci.
Mais écoute, avec plaisir. À la prochaine.